reportage réalisé en Algérie sur la présence chrétienne dans le Sahara, en compagnie de Mgr Claude Rau, l'évêque du Sahara. Thierry Lyonnais est parti à la rencontre des petites communautés catholiques disséminées dans ce grand désert. Aujourd'hui, première étape à Gardaïa, la capitale du Mousav, célèbre pour son architecture et la communauté mozabite, vivant un islam très rigoriste, c'est contre-courant.
Le jour se lève sur Gardaïa, l'une des cinq villes de cette région saharienne du Mousab, à 600 km au sud d'Alger. Dans les ruelles étroites qui gravissent la colline, des hommes aux pantalons bouffants, petits calots blancs sur la tête, se dirigent à la mosquée qui domine la ville de son haut minaret de terre. Ce sont des Mozabites, une communauté berbère dont l'islam chiite est très conservateur. Près de la grande place du marché, des commerçants installent leurs fruits et légumes. Quelques femmes, dissimulées sous leurs longs voiles blancs, passent furtivement, telles des fantômes, laissant apparaître seulement un œil. Nous allons pendant 4 semaines parcourir ensemble une partie du Sahara algérien à la découverte des petites communautés chrétiennes installées dans ce diocèse du Sahara. Sur les traces de Charles de Foucault et de ceux et celles qui aujourd'hui encore s'inspirent de ce petit frère universel, nous irons également à la rencontre des pères blancs et des sœurs blanches qui, depuis le 19e siècle, ont développé des liens d'amitié indestructibles avec leurs frères musulmans. Mgr Claude Rau est l'évêque du Sahara, du diocèse de Laguat-Gardaïa exactement. Il vit en Algérie depuis 1970 et c'est peu dire qu'il aime ce pays et ce désert. Le désert qui est sa cathédrale, comme il dit souvent. Écoutons-le nous présenter son grand diocèse.
Ce grand et petit diocèse, je dirais que c'est à la fois le plus grand ou l'un des plus grands en surface géographique du monde et aussi l'un des plus petits. Le plus grand, l'un des plus grands parce qu'il s'étend sur 2 millions de kilomètres carrés, ce qui représente à peu près 4 fois la France, des immenses étendues avec des petits îlots de communautés chrétiennes. Il y a une douzaine de communautés chrétiennes présente sur l'ensemble du diocèse, qui varie entre 3 et disons 15-20 personnes. Si je dis que le diocèse est composé d'une centaine de chrétiens permanents, je suis dans les chiffres. Pour une population de 3 800 000 habitants environ.
Et qui constituent ces petites communautés chrétiennes?
Alors ce sont essentiellement des communautés religieuses. Des communautés de prêtres, des communautés de prêtres et de frères, des communautés de religieuses, avec quelques chrétiens résidents, par exemple, si je prends les étudiants africains, qui sont une dizaine sur l'ensemble du diocèse. Il y a aussi quelques laïcs, il y a 4 laïcs qui sont engagés dans le service du diocèse, et j'apprécie beaucoup, beaucoup leur présence, avec aussi des expatriés du monde du pétrole ou de différentes sociétés étrangères qui sont souvent dans des endroits absolument inaccessibles, avec cependant un pôle, disons, assez important qui est sur Hassim et Saoud. Je crois aussi que le rayonnement de ces petites communautés chrétiennes est absolument immesurable. Nous ne saisissons pas, et nous ne pouvons pas saisir, et tant mieux, je dirais, l'impact que nous pouvons avoir, et aussi, je dirais, le rayonnement que nous pouvons avoir au milieu de cette population qui nous accueille et qui est très heureuse de compter en son sein des petites communautés chrétiennes qu'elle accueille, qu'elle protège.
Fondés en 1872 par le cardinal Lavigerie, les Pères Blancs sont immédiatement envoyés au Sahara. Située sur les pentes d'une colline, à proximité de la vieille ville de Gardaïa, la maison des Pères Blancs est aujourd'hui encore un lieu de rencontre dans le Mzab. Siège d'une petite communauté de prêtres, son centre culturel, ses bibliothèques, attirent Arabes et Mozabites. Le père Louis Lucet, surnommé Ludo, vit en Algérie depuis 1965. Pendant 20 ans, il fut technicien supérieur en laboratoire et aujourd'hui, il dirige cette communauté des Pères Blancs de Gardaïa.
Voilà, sur la terrasse, qui est bon, sur la construction du pays, avec des petits dômes, etc. Il y a encore, bien sûr, le clocher et la croix qui est toujours là. Et souvent, les gens du pays, au moment où on avait l'école, le père David qui sonnait régulièrement l'Angélus, etc., c'était un signe pour les enfants pour aller à l'école. Et c'est resté, c'est...
Et pour les
ça
gens,
pose pas de problème.
Et pour les gens, c'est connu, c'est l'église de Gardaïa.
Oui, c'est ça.
Alors c'est beau, on a une vue magnifique de cette terrasse sur toute la vallée du Mzab,
voilà.
Avec à la fois les palmeraies et puis les cinq villes.
Oui, les cinq villes, alors on n'en voit pas cinq ici, on en voit trois. Il y a Gardaïa, il y a Malika, et vers la fond à droite, là, c'est Benizgan. Les deux autres sont de l'autre côté, donc on ne peut pas les voir. Là.
Et quelle est alors votre vocation aujourd'hui, ici, dans ce lieu?
Quelle vocation? Oh, bah, c'est d'être avec ce que l'on est. Donc, premièrement, comme on est religieux, père blanc, prêtre, ou sœur, ou chrétien, disons, vivant au milieu d'une population qui est complètement différente et qui est très respectable. Quand je suis arrivé au tout début, j'étais très impressionné par ce sens de Dieu qu'il y avait, pas simplement ici, mais là où j'étais, à Béchar ou ailleurs, un sens de Dieu et un sens aussi de l'autre, en sens que facilement les gens donnaient l'aumône, etc., quand ils rencontraient quelqu'un qui n'avait rien. Et le sens de Dieu n'avait pas peur de se dire croyant.
Hein. Et, les gens parlent très rapidement de Dieu ici.
C'est
fondamental dans leur vie.
Ça fait partie du vocabulaire, peut-être on y fait moins attention, mais quand même, je pense que la référence à Dieu est importante. Je me souviens des amis avec qui j'ai travaillé, qui était très intéressé par la culture française, vouloir aller en France, n'importe. Oui. Et qui disait, mais quand même, mais pourquoi est-ce qu'en France, vous avez laissé Dieu de côté? Vous avez un tas de choses qui nous intéressent, etc., mais ça ne nous va pas. Donc, et je pense que ça reste quand même, ça reste très fort.
Christophe Stolarski est un jeune père blanc qui, après deux années d'études intensives d'arabe en Égypte, est de retour à Gardaïa pour y diriger le centre culturel des pères blancs. Retrouvons-le au milieu d'étagères remplies de livres sur le Sahara.
Ici, nous sommes au centre culturel et de documentation saharienne, et exactement à la bibliothèque de recherche spécialisée dans des cultures du Sahara.
Alors, qu'est-ce que vous avez dans les mains?
Alors, ça, c'est les dictionnaires touareg français écrits par Père Charles de Foucault. Charles de Foucault, qui était ici au Sahara, qui travaillait beaucoup avec la population locale à Tamanrasset, et qui a préparé ces dictionnaires français touareg.
Alors, ce lieu est un lieu vraiment très spécialisé sur le Sahara. Vous avez combien de livres environ?
Tous ensemble, nous avons un fonds assez important. On a 18 000 documents, dont il y a 11 000 livres.
Alors, ce centre, c'est bien sûr ce riche fonds que vous avez, mais c'est aussi une autre bibliothèque de prêt qui est un peu plus bas. Et puis, vous donnez des cours également, des cours de langue.
Oui. On se pose la question comment on peut être utile au service de la population locale. Alors on a décidé de garder, de ramasser ensemble, de protéger tous les patrimoines culturels locaux. Aussi, on a une petite formation, c'est la formation des langues. Il y a des cours de langue. Il y a les cours de français, d'anglais, d'allemand et d'espagnol.
Qu'est-ce que vous pensez que vous apportez ici en accueillant ces jeunes, ces moins jeunes qui viennent apprendre des langues ou qui viennent lire dans votre bibliothèque?
Je crois que depuis que les Pères Blancs étaient ici, c'est-à-dire de la fin du 19e siècle, la présence était toujours bien appréciée. Qu'est-ce que nous apportons? Nous apportons une différence. Nous sommes différents et les gens le savent très bien. Mais quand même, ils découvrent par notre présence, ils découvrent la réalité étrangère ou chrétienne. Mais de l'autre côté aussi, dans nos contacts, ils découvrent leur propre identité. La population ici à Gardaïa est bien mélangée parce qu'il y a majorité, toujours c'était la communauté mozabite, maintenant c'est plus ou moins 50% avec la communauté arabe, mais on a décidé d'être ici comme Père Blanc, un pont entre les cultures. Et notre maison, notre centre culturel, c'est aussi un des lieux un peu privilégiés où les cultures se rencontrent, parce qu'il y a des Arabes qui viennent ici, il y a des Mozabites, il y a des jeunes, il y a des plus vieux,
il y a des femmes,
il y a des hommes, il y a
dans
des filles,
de
il y a des garçons. Oui. Alors on a décidé que même si la culture, la mentalité exige un peu de séparation, on a décidé qu'ici au centre, on va rencontrer tout le monde tel qu'ils sont, et je crois qu'ils aiment ça beaucoup.
Nous sommes dans la bibliothèque de près de ce centre de documentation et ce centre culturel du Sahara tenu par les Pères Blancs à Gardaïa. Ça fait 5 ans que vous travaillez ici, que vous êtes en contact régulier avec les Pères Blancs qui sont là, d'autres chrétiens qui sont de passage. Qu'est-ce qu'ils vous ont fait découvrir? Qu'est-ce que ces gens différents, qu'ils soient prêtres, religieux, religieuses, vous ont fait découvrir à vous personnellement?
Je ne sais pas, moi ici, je me sens très très bien. C'est ça, je me sens à l'aise. Je l'admire trop, moi, les pères ici. Les pères, ça, je sens comme des grands frères qui sont toujours pour moi ici, qui m'aident trop. Et moi, comme une femme, je me sens très respectée ici. Je ne trouve pas ça ailleurs.
Saïda, qu'est-ce que ça vous fait qu'il y ait des chrétiens qui vivent ici? On est dans Gardaïa, on dit que c'est une ville sainte, il y a beaucoup de musulmans, hein, c'est la majorité, la grande majorité, il y a quelques chrétiens qui vivent ici. Qu'est-ce que ça vous fait, cette présence des chrétiens?
Elle est normale pour moi. On est chrétiens, musulmans, on est tous des humains. Je ne vois pas pourquoi on ne peut pas vivre ensemble. C'est quoi le problème? On vit ensemble depuis le prophète Mohammed, donc chacun il peut suivre sa religion comme il veut, mais on peut vivre ensemble dans la paix.
Alors vous dites ça, parce que vous travaillez ici, vous connaissez bien les pères blancs, les sœurs blanches, mais la majorité des gens ont envie que les pères et les sœurs restent ici, ou il y a quand même beaucoup de gens qui aimeraient bien que ces chrétiens s'en aillent?
Non, j'ai jamais entendu ça. Vraiment, jamais ça. Parce qu'ils disent toujours que ça fait du bien d'avoir un lieu comme ça, avec des gens comme les pères.
Donc vous n'avez jamais entendu des gens autour de vous, sincèrement, qui ont dit que ces chrétiens, il faut qu'ils partent?
Non, jamais de la vie. Jamais. Depuis que je suis là, je travaille ici, jamais quelqu'un a dit ça.
Et en dehors? En dehors du centre,
ou là?
Dans la ville,
non, j'ai jamais entendu ça. Au contraire, j'entends toujours que ce centre apporte trop d'aide pour les gens.
Et on ne vous reproche pas de travailler chez les chrétiens?
Jamais. Ni mes parents, ni mes voisins, ni personne. Non, jamais.
Thomas, Christine, on s'est installé sur la terrasse de votre maison, des Sœurs Blanches ici à Gardaïa. Alors on a la vue sur le jardin avec les palmiers, on a une mosquée, un minaret, pas bien loin, un minaret mozabite. Votre terrain était beaucoup plus grand avant.
Oui, ça c'est clair. Auparavant, toutes les écoles que vous voyez ici étaient des écoles gérées, administrées par les Sœurs. Et puis ce que vous voyez là sur la droite, c'était ce qu'on appelait un ouvroir, un endroit où les femmes apprenaient le tissage et c'était un atelier de production de tapis de très bonne qualité pour la région.
Et tout ça a été nationalisé, pris par l'État en quelle année?
Dans les années 70, entre 73 et 76, hein, ça s'est passé, l'État a repris toutes ces institutions, que ce soit écoles, hôpitaux, parce que nous avions aussi un hôpital qui était géré par les sœurs. Donc, que ce soit école, que ce soit centre d'ouvroir ou école, tout ça a été repris par l'État algérien. Et les sœurs, certaines des sœurs ont pu continuer à travailler. Par exemple, à l'ouvroir, une des sœurs qui est actuellement dans la communauté, c'était elle qui formait les femmes au tissage.
Et ça, ça a changé beaucoup de choses, je dirais, pour l'Église catholique, cette nationalisation.
Ça, ça a été très clair. D'une certaine façon, ça a retiré à l'Église toutes ces formes de pouvoir, de présence massive. C'était clair, hein, on connaissait l'hôpital.
Le reste du colonialisme, en fait, non, d'une certaine manière. Ou du lien avec la colonisation.
Ou du lien avec la colonisation, voilà, je mettrais plutôt ces termes-là. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, l'Église a beaucoup perdu de visibilité extérieure. Et beaucoup de permanents d'Église, à ce moment-là, sont rentrés dans leur pays d'origine, oui. Mais principalement en France, oui.
Alors vous, ici, au niveau de la communauté des Sœurs Blanches de Gardaïa, est-ce que vous êtes resté tout le temps, ou est-ce qu'il y a eu un moment de fermeture pendant les périodes dramatiques des années 80-90?
En 1994, à la suite d'une attaque de la communauté des Pères Blancs, dont ont réchappé par miracle les Pères, notre communauté a été invitée à quitter les lieux. On est parti très précipitamment, donc en 1995, au début de l'année 1995, et puis les événements ont fait que, à cause d'une certaine insécurité quand même, et le fait aussi qu'on ait mis en place une nouvelle communauté à Timimoun, nous n'avons pu revenir à Gardaïa qu'en 2004, au cours de l'année 2004, et nous sommes revenus dans la maison que nous habitions autrefois.
Alors la question qu'on doit vous poser souvent, j'imagine, quand vous rentrez en France, c'est « Alors est-ce que vous vous sentez en sécurité ici ?»
Ah oui, tout à fait, tout à fait. On est entouré de populations qui sont très amies, qui se souviennent aussi de tout ce qui a été fait autrefois par les pères, par les sœurs, l'éducation, la santé, enfin tout ça. Et puis, oui, non, la population est très bienveillante à notre égard, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas l'un ou l'autre une personne qui ne soit pas très favorable.
Très bienveillante à votre présence ici, c'est
absolument.
Ça?
Absolument. Mais globalement, nous sommes en sécurité.
Après le repas, sœur Apolline, qui est sœur blanche, originaire du Burkina Faso et qui est à Gardaïa depuis 4 ans et demi, me propose de visiter les salles où elle donne ses cours dans une aile de la maison.
Donc on a deux salles. Ici on a une petite salle de classe qui accueille à peu près 18 enfants.
Donc ici, c'est plutôt pour les enfants.
Pour les enfants, oui.
Et pour les femmes,
les plus petites.
Les petites.
Et ici, on a les femmes, j'accueille plus les femmes ici, et les jeunes filles du collège. Voilà.
Ah, c'est bien décoré avec des mosaïques partout.
Voilà, oui, c'est une salle un peu qui était prévue pour des activités aussi pour les femmes, donc des activités couture ou autre activité. Mais bon, il n'y a pas une qui fait la couture, et moi, bon, je suis assistante sociale, donc et les femmes n'avaient pas trop de demandes dans ce domaine.
Donc ici, qu'est-ce qu'elles viennent faire, les femmes, dans ces...
Elles avaient demandé plus à faire le français. Et j'ai demandé à plusieurs, j'ai dit, mais pourquoi vous voulez faire le français? Et il y a beaucoup qui me disent, on veut faire le français pour pouvoir aider nos enfants à la maison. Quand ils amènent des exercices, on ne sait pas les aider. Surtout du primaire, les enfants du primaire. Donc elles disent, on veut avoir une petite base pour pouvoir les aider à les suivre à la maison. Et certaines aussi me disent, ah, j'aimerais vraiment bien apprendre le français pour pouvoir lire les notices des médicaments. Je ne sais pas, on ne sait pas les lire, donc voilà. Elles ont des motifs différents pour apprendre le français.
Alors moi j'aurais bien aimé assister à un cours, mais c'est totalement impossible.
Alors impossible. Impossible. Parce que les femmes que je prends ici, c'est la plupart c'est arabe et mozabite. Donc il y en a qui me demandent quand elles veulent s'inscrire, est-ce que c'est mozabite ou c'est arabe? Je dis moi je ne fais pas de différence, c'est tout le monde mélangé. Là, c'est arabe et mozabite et les...
Mais c'est ce qui n'arrive pas beaucoup dans la société.
Oui, oui.
C'est vraiment les mozabites d'un côté et
oui,
les arabes de l'autre.
Voilà. Elles ont très peu de rencontres qui n'est pas vraiment, que ce soit un mariage ou quoi. Dans un mariage autre aussi, que ce soit mozabite ou arabe, il y a quelques familles qui sont bien connues. Mais les avoir ensemble comme ça pour une activité telle qu'elle est, c'est très souvent, c'est chaque groupe organise ses activités à part. Mais ici, moi j'ai dit, on fait tout le monde ensemble. Et donc quand elles arrivent comme ça, bon, la plupart des mozabites, elles sont habillées vraiment avec leur habit traditionnel, un œil.
Donc
dès qu'elles sont rentrées...
C'est le voile blanc complet,
le voile
et on ne voit qu'un œil.
Qu'un œil, oui.
Donc c'était impensable que je vienne assister à
toi. Impensable. Même si tu passes à la fenêtre ici, elles vont me dire, il y a un homme qui a passé. Et il faut que tu essaies. Donc, c'est pour ça, vous voyez nos fenêtres. On a fait à une certaine hauteur pour que ça soit invisible de l'extérieur.
Sœur Apolline, c'est vous qui avez choisi de venir en Algérie comme sœur blanche?
Non, je ne l'ai pas choisi, j'ai été nommée. Et je peux dire en vérité que quand j'ai su que j'étais nommée en Algérie, j'avais très peur. Donc, vu ce que je voyais à travers les médias quand on parlait de l'Algérie. Donc, mon sentiment, c'était la peur.
Et aujourd'hui, vous avez toujours peur ici?
Aujourd'hui, vraiment, je me sens vraiment comme chez moi, surtout quand je vais dans les familles. Vraiment, je peux dire que la peur, elle est déjà partie. Et c'est dommage, c'est ma dernière année en Algérie. En été, je partirai pour une autre mission.
Une autre mission? Ah, et là maintenant, vous le regrettez de partir?
Oui, je regrette parce que je vois que c'est maintenant que la vie commence. Après 4 ans et demi, c'est maintenant que je vois vraiment que oui, je commence à prendre des racines et aussi à faire ma vie avec ce peuple.
Et vous ne pouvez pas demander de rester ici?
Non, je ne vais pas demander parce que pour moi, c'est bon aussi de partir pour peut-être revenir.
Quatrième fois de la journée, les musulmans se rassemblent pour prier dans leur mosquée. La petite communauté chrétienne de Gardaïa est réunie pour l'Eucharistie dans la cathédrale, une modeste pièce de 4 mètres par 4. Derrière l'autel, une icône de la Trinité et un évangile en arabe. Après leur journée de travail, ils se rassemblent tous les jours. Père Blanc, Sœur Blanche, 4 laïcs venus se mettre au service du diocèse, et puis bien sûr, les amis de passage, toujours les bienvenus. Dans notre prochaine émission, nous prendrons la route avec Mgr Claude Raux pour un long voyage au cœur du Sahara, son diocèse. Deux fois par an, il rend visite aux petites communautés chrétiennes isolées dans les oasis de ce grand désert. El Goléa, Timimoun, Beni Abbès, Adrar, Tougourt, Ouargla, bien c'est là que nous attendent tous ceux et celles qui,
au nom de leur foi chrétienne, ont choisi de vivre, tout simplement, avec leurs frères et sœurs musulmans. De belles rencontres, je vous le promets. À la semaine prochaine.
Merci Thierry. Second volet de cette série de contre-courants dans le Sahara algérien, la semaine prochaine.